cœur de l'info.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anne Arbertson. Au sommaire, en ce vendredi 3 avril 2015,
au moins 5 morts dans un attentat à la bombe à Gombe au Nigeria.
Burkina Faso, face à la multiplication des grèves et autres manifestations de rue, le Premier ministre est monté au créneau.
Il me semble quand même que le Premier ministre a voulu pousser un peu à la remobilisation autour de la transition, hein. D'une classe politique qu'il a quelque peu abandonnée et puis une classe sociale aussi.
On entendra la réaction du journaliste burkinabé Newton Ahmed Barry.
Les rebelles Touareg du nord du Mali affirment rencontrer des médiateurs algériens à Alger.
L'Iran et les puissances mondiales se sont entendues sur les paramètres clés d'un accord préliminaire visant à restreindre le programme nucléaire iranien.
À mon avis, les deux parties sont gagnantes et c'était ça le but.
On entendra l'analyse d'Azadeh Kian Thiebo, professeur à l'université Paris Diderot.
Mais tout d'abord, le journal.
Au moins 5 morts et une quinzaine de blessés au Nigeria dans une explosion près d'une gare routière à Gombe. L'attentat porte la marque de la milice djihadiste Boko Haram, même s'il n'a pas été revendiqué pour l'instant. Selon les témoins, une femme aurait déposé un bagage près d'un autocar avant de s'éloigner du sac qui a explosé.
La Maison-Blanche a condamné dans les termes les plus forts l'attaque odieuse menée par des islamistes somaliens Shebab jeudi à l'université de Garissa dans l'est du Kenya. Washington a aussi présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes de l'attaque qui a fait au moins 147 morts. Michel Joseph.
Le Conseil national de sécurité et le porte-parole présidentiel Josh Earnest ont écrit sur Twitter « Les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts l'attaque terroriste menée aujourd'hui » contre des hommes et des femmes innocents à l'université de Garissa. Et M. Earnest a ajouté que les États-Unis continueront d'aider le Kenya et les autres pays de la région pour faire échec au groupe terroriste Shabab. Le président Obama doit se rendre en juillet au Kenya, terre natale de son père, pour sa première visite dans ce pays depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. Les Shebab, des islamistes affiliés à Al-Qaïda, ont multiplié les attentats au Kenya depuis 2011 jusqu'à Nairobi et sur la touristique côte du pays, notamment à Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est. Ils ont entre autres revendiqué le siège sanglant de septembre 2013 contre le centre commercial Westgate de Nairobi, qui avait fait 67 morts, ainsi qu'une série de raids nocturnes sur des villages de la côte en juin-juillet 2014, au moins 96 personnes froidement exécutées. Ces attaques font suite au déploiement en octobre 2011 de l'armée kényane en Somalie pour combattre les Shebab.
Publication du rapport d'enquête des Nations Unies sur une manifestation violente survenue en janvier à Gao, au Mali, aux abords du bureau régional de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Un millier de manifestants environ s'étaient massés devant les portes de la base de la MINUSMA. Ils avaient tenté d'y pénétrer par la force, un incident qui avait fait 3 morts et de nombreux blessés parmi les manifestants.
L'enquête a établi que des membres d'une unité de police constituée de la MINUSMA ont fait usage de la force de manière excessive et non autorisée contre des civils pendant la manifestation, entraînant la mort par balle de 3 manifestants et en blessant 4 autres, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. L'enquête a également établi que certains manifestants et organisateurs de la manifestation sont également responsables de la tournure violente qu'a prise la manifestation, notamment en lançant des cocktails Molotov et des pierres et en tentant de forcer le périmètre de sécurité du bureau de la MINUSMA.
Selon l'agence Reuters, les rebelles Touareg du nord du Mali ont déclaré jeudi qu'ils rencontraient des médiateurs algériens à Alger concernant les conditions de l'accord préliminaire de paix qu'ils ont rejeté au mois de mars.
L'accord vise à en finir avec des décennies de rébellion dans le nord du Mali. Il a été signé par le gouvernement de Bamako début mars, mais après consultation avec leurs partisans, les rebelles ont estimé qu'ils n'allaient pas assez loin sur l'octroi de l'autonomie à la région du nord malien qu'ils appellent Azawad.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi à l'unanimité le retrait de 700 casques bleus de la mission des Nations Unies au Libéria. Le point avec Eddie Sango.
C'est une décision du Conseil de sécurité votée hier à l'unanimité. Avec ces retraits, les effectifs militaires onusiens au Libéria passeront de 5 800 à 5 105 hommes d'ici septembre, selon la résolution des 15 membres du Conseil de sécurité. La mission de l'ONU au Libéria a été mise en place en 2003 lorsque les pays sortaient d'une guerre civile qui avait coûté la vie à au moins 150 000 civils et n'est pas liée spécifiquement à l'épidémie d'Ebola. La résolution du Conseil de sécurité prévoit que le Libéria puisse assurer pleinement sa propre sécurité d'ici au 30 juin 2016. Les pays se remettent de l'épidémie d'Ebola qui a causé la mort des milliers de personnes ces derniers mois. La mission des Nations Unies a aidé les Libéria dans la lutte contre les virus. Monrovia avait aussi bénéficié d'autres soutiens dans ce sens, comme l'opération militaire américaine qui s'est retirée en février.
En Guinée, l'opposition avait appelé jeudi les populations à une journée ville morte pour protester contre le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Mais selon des sources dans le pays, cet appel a été surtout suivi dans les fiefs de l'opposition.
L'Indonésie se dit prête à accueillir les festivités organisées en l'honneur du 60e anniversaire du sommet Asie-Afrique, qui sera célébré ce mois-ci en présence de délégations de dizaines de pays. Le gouverneur de Jakarta dit à la presse que les préparatifs sont en cours pour rendre la capitale présentable.
La majorité des réunions se tiendra à Jakarta à partir du 19 avril, mais un sommet est prévu à Bandung, où le tout premier sommet Asie-Afrique avait eu lieu en 1955.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran et les puissances mondiales se sont entendus sur les paramètres clés d'un accord préliminaire visant à restreindre le programme nucléaire iranien après 8 jours de négociations à Lausanne, en Suisse. Le point avec Lionel Gaïma.
Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a déclaré lors d'une conférence de presse hier que cette décision cruciale va jeter les bases d'un accord final d'ici à la date butoir du 30 juin. L'accord limite les activités nucléaires de l'Iran de telle sorte que Natanz sera la seule installation où Téhéran pourra enrichir de l'uranium. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, s'en est félicité. Lorsque nous appliquerons ces mesures, il n'y aura plus de sanctions contre la République islamique d'Iran. Et cela serait, je pense, un pas majeur en avant. Nous avons interrompu un cycle qui n'était dans l'intérêt de personne. Ici à Washington, le président Barack Obama est lui aussi apparu devant la presse pour saluer l'accord préliminaire.
With this deal, Iran will face more inspections than any other country in the world.
Monsieur Obama a dit en substance qu'avec cet accord, l'Iran fera face à plus d'inspections que n'importe quel autre pays dans le monde, ajoutant que si les Iraniens trichent, le monde le saura. Si cet accord est pleinement appliqué, il bloquera toute voie possible à la fabrication d'armes nucléaires par l'Iran, a précisé le chef de l'exécutif américain. Le président Obama a également annoncé qu'il y aura un assouplissement des sanctions américaines et onusiennes contre l'Iran, sanctions qui ont un impact profond, a-t-il dit, sur l'économie iranienne.
Des hommes armés de grenades propulsées par des mortiers ont attaqué jeudi plusieurs postes de contrôle militaire dans le nord du Sinaï, en Égypte. Le bilan est d'au moins 17 morts, dont 2 civils et des dizaines de blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais des militants se réclamant du groupe État islamique ont mené des opérations similaires dans la péninsule du Sinaï. Les États-Unis ont condamné fermement ces attaques.
Au moins 56 marins sont morts suite au naufrage dans la nuit de mercredi à jeudi d'un chalutier avec 132 personnes à bord dans la mer d'Okhotsk au large de l'Extrême-Orient russe. 13 autres personnes sont toujours portées disparues. Selon des responsables de la région de Sakhaline, il n'a fallu qu'environ 15 minutes pour que le bateau coule et il n'a pas envoyé de SOS.
Deux femmes habitant New York et soupçonnées d'être des terroristes ont été arrêtées pour avoir tenté de fabriquer une bombe artisanale en vue de perpétrer un attentat aux États-Unis. Selon la plainte criminelle, elles se nomment Noël Valenzas et Asia Siddiqui et sont d'anciennes colocataires originaires du quartier de Queens. Elles auraient conspiré depuis environ mai 2013 dans le but d'utiliser une arme de destruction massive quelque part aux États-Unis. Elles auraient été motivées par des convictions djihadistes violentes. Les autorités assurent que le public n'a jamais été en danger.
Les rebelles houthis du Yémen se sont emparés jeudi du palais présidentiel dans le centre du port d'Aden. Selon des responsables gouvernementaux, la capture totale d'Aden serait un revers pour les coalisés menés par l'Arabie saoudite, qui dirige depuis plus d'une semaine une campagne aérienne contre ses miliciens soutenus par l'Iran. Lors d'un point de presse à Riyad, la capitale saoudienne, un responsable saoudien de la défense a estimé que la situation à Aden est relativement stable et calme. Et maintenant, la Minute Éco, présentation Félix Yepassis Zembrou.
Ouverture ce vendredi de la troisième édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. L'édition 2015 du SARA, c'est 600 à 800 exposants et 500 000 visiteurs attendus. Placée sous le thème « Promotion de l'investissement agricole durable », cette troisième édition sera l'occasion pour les autorités ivoiriennes de mettre en valeur les richesses de leur pays et de promouvoir l'investissement. Après deux semaines de grève, les employés de la mine de nickel et de cobalt malgache d'Ambatovi, contrôlée par le géant canadien Sherritt, ont repris le travail selon la direction. Les employés de la mine, proche de Tamatave, qui s'étaient mis en grève le 16 mars après le décès d'un de leurs collègues malades, accusaient la compagnie Ambatovi de refus d'assistance à personne en danger. Le conflit s'est ensuite envenimé par l'emprisonnement de deux employés accusés de vol de carburant. Le personnel dénonçait également la présence sur le site de radiation de rayons X nuisibles pour la santé. Enfin, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, va célébrer son 20e anniversaire les 8 et 9 avril à Marrakech, la ville où ont été conclus les accords instituant la plus haute instance dirigeante du commerce mondial. L'événement mettra à l'honneur le continent africain, ses perspectives et sa place dans le système commercial multilatéral, tout en faisant valoir le rôle leader du Maroc en matière de négociation et d'appui à la facilitation des échanges commerciaux.
On enchaîne avec les sports, avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Alors le Maroc participera bien aux éliminatoires de la CAN 2017.
Oui, le tribunal arbitral du sport a annulé hier les sanctions sportives prises par la Confédération africaine de football contre le Royaume chérifien qui avait refusé d'organiser la CAN 2015 en raison de l'épidémie d'Ebola. Le Maroc demandait un report, la CAF avait refusé et la CAF avait suspendu pour les CAN 2017 et 2019 le Maroc. Mais le tribunal arbitral du sport a décidé d'annuler cette décision. Le TAS a également annulé les lourdes sanctions financières infligées à la fédération marocaine. La fédération royale marocaine de football avait en effet été condamnée par la CAF à verser 9 millions d'euros au titre des réparations et préjudices. Cette somme a donc été annulée.
Autre affaire de gros sous au Comité international olympique qui fait preuve de transparence.
Pour la première fois, conformément aux promesses de l'agenda 2020, le Comité international olympique a publié le montant des indemnités qu'il va verser à ses membres et à son président Thomas Bach, qui recevra 225 000 euros par an. Le CIO va donc verser à chacun de ses 115 membres une indemnité journalière de 450 dollars quand il siège et une indemnité annuelle de 7 000 dollars pour couvrir les frais administratifs. Enfin Camille, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Eh bien, il y avait peu de matchs hier soir en NBA. Le Miami Heat a pris du retard face aux Cleveland Cavaliers dès le début de la soirée. Et LeBron James a mené son équipe à la victoire sur le score de 114-88. Par contre, les Houston Rockets, qui étaient à la traîne des Dallas Mavericks une bonne partie du match, se sont ressaisis et les ont battus 108-101. Et enfin, un match très serré entre les Golden State Warriors et les Phoenix Suns qui se sont séparés sur le score de 107-106. Voilà, Golden State n'a gagné que d'un seul point. Et toujours en NBA, eh bien, les Sacramento Kings ont fait signer jeudi un contrat de 10 jours. 10 jours seulement à Sim Bular, qui pourrait ainsi devenir le premier joueur d'origine indienne à évoluer dans le championnat nord-américain de basketball. Il est né à Toronto, au Canada, de parents indiens. Bular est âgé de 22 ans et il mesure, tenez-vous bien, 2 mètres 28, ce qui en fait le joueur le plus grand de toute la NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grosdidier pour présenter les dossiers du jour. On commence avec le Burkina Faso. Face à la multiplication des grèves et autres manifestations de rue, le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, est monté au créneau pour mettre en garde les grévistes. Il a accusé ces derniers de vouloir instaurer un climat d'anarchie dans le pays avant l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Bagassi Koura a joint à Paris le journaliste burkinabé Newton Ahmed Barry. Pour lui, le Premier ministre a voulu remobiliser les populations autour de la transition.
Il me semble quand même que le Premier ministre a voulu pousser un peu à la remobilisation autour de la transition. Hein. D'une classe politique qu'il a quelque peu abandonnée, et puis une classe sociale aussi, la société civile, qui est occupée plutôt à gérer ses petites affaires, donc en laissant la transition à elle seule, face donc à une contestation qui prend de l'ampleur, dont on ne sait pas forcément d'où elle vient. Et puis bon, voilà quoi, je pense que c'est un cri de cœur, en tout cas d'un Premier ministre un peu aux abois, avec aussi quelques difficultés avec le président, parce que la cohabitation n'est pas toujours heureuse.
Décrivez-nous un peu ce climat-là, le climat social.
Évidemment, on a une transition qui est venue naturellement avec beaucoup d'espoir, hein, qu'il n'arrive pas jusqu'à présent à transformer ou en tout cas à mettre en œuvre. Il se trouve simplement que parti un peu sur des chapeaux de roue par rapport à un certain nombre de revendications sociales, il se trouve que les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs, comme on dit. Et donc il se trouve aujourd'hui dans une situation où les populations, évidemment, ragaillardies par l'insurrection du mois d'octobre, attendent tout et ici. Et maintenant, donc évidemment, avec une situation économique qui n'est pas simple, vous savez très bien que le FMI, lors de son dernier passage, a dit par exemple que l'économie burkinabé devrait chuter d'environ 4 points cette année et que la perspective de 2016 aussi n'est pas totalement heureuse. Donc c'est vraiment une situation un peu quand même difficile aujourd'hui pour le Premier ministre Zida, qui évidemment a besoin de remobiliser en essayant un peu d'agiter l'épouvantail d'une éventuelle déstabilisation qui viendrait de l'extérieur, mais également un front intérieur qui ne voudrait pas du succès de la transition.
Et le premier test, ce sera bien sûr le 8 avril avec cette grève programmée de la coalition contre la vie chère.
À mon avis, ce n'est pas ça qui effraie davantage le gouvernement de la transition. Quand les choses sont faites de façon organisée, je pense qu'il arrive à gérer. C'est plutôt ces grèves perlées, ces situations d'insurrection permanente qu'il n'arrive plus à maîtriser, qui les ferait. Je pense plutôt que c'est de ce côté-là que la peur existe.
Le journaliste burkinabé Newton Ahmed Barry.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Camille Grosdidier avec vous. Pour Le Monde aujourd'hui, le Kenya a été endeuillé par la sanglante attaque des militants des Chebab contre l'université de Garissa, qui a fait au moins 147 morts. Des étudiants pour la plupart. C'est la seconde attaque de cette envergure en territoire kenyan après celle en septembre 2013 contre le centre commercial Westgate de Nairobi. Pour un éclairage au sujet de l'attaque d'hier, Timothée Donangmai a joint ici à Washington Walid Farrell, conseiller du Congrès américain pour la lutte contre le terrorisme.
C'est un acte horrible, un autre acte de terrorisme djihadiste qui vise les sociétés civiles. On l'a vu en Égypte, en Libye, en Syrie, en Irak. Mais maintenant, ça touche l'Afrique profonde, au Kenya. Ça cible les jeunesses et surtout sur les campus, universités, ce qui veut dire que c'est une guerre ouverte entre les terroristes, et les djihadistes en particulier, qui viennent de la Somalie, mais qui peut-être ont des cellules à l'intérieur de ces pays contre les sociétés civiles. Ceci doit être un appel de mobilisation pour la communauté internationale.
C'est le second massacre de telle ampleur après l'attaque contre le grand centre commercial de Nairobi.
Oui, ce second massacre soulève des questions. Et la question la plus importante, c'est l'existence d'un réseau terroriste qui cible les points forts, les points condensés, si vous voulez, de la société civile, que ce soit des centres commerciaux. Et maintenant, ils attaquent les universités, les écoles. Cela doit être un appel à la mobilisation générale au Kenya, dans la région et aussi du point de vue international. Il faut qu'il y ait des mesures stratégiques à ce point-ci, surtout aussi contrer les Shabab, pas seulement au Kenya, mais aussi en Somalie.
Mais comment contrer les Shabab au Kenya quand on sait que le Kenya a une longue frontière avec la Somalie et qu'il y a une importante communauté somalienne au Kenya?
D'abord, il faudrait faire une mobilisation intellectuelle, sociale, culturelle, pour informer un peu, si vous voulez, les citoyens du Kenya, comment détecter les djihadistes avant qu'ils n'agissent. Deuxièmement, certainement, il doit y avoir des ONG à l'intérieur des communautés somaliennes qui sont tout à fait opposées au djihadisme. Il faudrait entrer en contact avec elles. Les ONG, ce sont les radars, si vous voulez, que les Kenyans et les autres Africains doivent utiliser. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une responsabilité collective avec l'Union africaine et la communauté internationale pour déclarer les frontières entre la Somalie et le Kenya comme frontières sécuritaires internationales.
Que peuvent faire des pays occidentaux comme les États-Unis dans cette lutte?
D'abord, il faudrait faire un appel très fort de Washington au peuple kenyan. Il faudrait montrer un acte de solidarité. Nous savons que le président va visiter le Kenya dans quelques mois. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait un sommet qui doit se faire ou bien à Washington ou bien même au Kenya et qu'il y ait la participation de chefs et de leaders, de présidents, de premiers ministres occidentaux, internationaux, comme a été le cas avec la solidarité en France. Quand beaucoup de chefs sont partis après le massacre de Charlie Hebdo, en Tunisie, après le massacre de Bato, et maintenant, il faut qu'il y ait une solidarité internationale qui se manifeste. Et cela peut aider psychologiquement le peuple kenyan pour qu'il ne perde pas l'espoir, et aussi faire une dissuasion contre ces djihadistes et leurs alliés.
Walid Fares, conseiller du Congrès américain pour la lutte contre le terrorisme, il était joint ici à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Camille Grosdidier pour Le Monde Aujourd'hui. L'Iran accepte donc, dans son accord cadre avec les grandes puissances, de limiter fortement son programme nucléaire pour mettre hors de portée la bombe atomique. C'est ce qu'a déclaré jeudi à Lausanne le secrétaire d'État américain John Kerry. Alors, cet accord est-il un bon accord pour les Iraniens ou encore les grandes puissances? Nicolas Pineau a posé la question à Azadeh Kian Thiebaud, professeur à l'université Paris Diderot.
À mon avis, les deux parties sont gagnantes et c'était ça le but, parce que à la fois les Iraniens qui parviennent à continuer à enrichir l'uranium à 3,5% montraient que leur programme nucléaire n'est pas militaire, mais en même temps parvenir à lever les sanctions internationales qui pèsent lourdement sur l'économie iranienne, mais en mettant les 5+1 qui obtiendront les assurances selon lesquelles effectivement l'Iran ne poursuit pas un programme militaire grâce à l'engagement du gouvernement iranien dans un premier temps de respecter le protocole additionnel qui n'a pas encore été ratifié par le Parlement, mais de permettre donc aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'inspecter les sites nucléaires de l'Iran. Et je pense que le futur Parlement iranien a toutes les chances de ratifier le protocole additionnel.
Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée au pouvoir d'Hassan Rouhani a vraiment permis de débloquer la situation?
Disons qu'il s'est fait élire sur la promesse de réintégrer l'Iran au sein de la communauté internationale à travers justement une solution à la crise nucléaire iranienne et aussi d'améliorer la condition de vie des Iraniens. Et pendant pratiquement ces deux premières années de son mandat, il s'est absolument concentré sur le dossier du nucléaire et je pense que c'est une réussite. réussite très importante pour Rouhani. Vous savez que le guide Khamenei a approuvé cette initiative de Rouhani, a laissé faire Rouhani tout en étant sceptique, mais il a soutenu les négociations, ce qui a permis effectivement à l'équipe iranienne de mener à bien ces négociations dont on voit aujourd'hui le résultat, certes provisoire, mais on est tout à fait, je pense, sur la bonne voie pour résoudre les problèmes restants qui sont plutôt techniques d'ici fin juin.
Azadeh Kian Thiebaud, elle était jointe à Paris. Vendredi, les Juifs célèbrent la Pâque juive qui sera suivie dimanche de la Pâque chrétienne. De par le monde, les fêtes se préparent. Au Niger, cette année, les festivités auront lieu en plein air car les lieux de culte ont été profanés par des manifestants il y a 3 mois. On suit le reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est dans un contexte particulier que les chrétiens nigériens vont célébrer les Pâques cette année. La fête intervient en effet 2 mois après des actes de saccage et de profanation de plusieurs de leurs lieux de culte lors des manifestations anti-Charlie. Ces lieux de culte restent pour la plupart encore non reconstruits pour certains, non réhabilités pour d'autres. Pasteur Korou Abdelkader est le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Niger.
Nos églises sont certaines brûlées, on est en train de reprendre par la grâce de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec l'aspect spirituel de la Pâque. L'aspect physique, c'est là, bon, on peut se tenir debout et célébrer, et louer, adorer Jésus, chanter, prêcher, tout ça là. Mais c'est les porte-voix là, les moyens matériels là, la sonorisation, les micros, je ne sais pas quoi encore, les instruments de musique qui nous manquent. Mais dans les cœurs, je dirais que nous n'allons pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes en joie tout le temps.
Le gouvernement a pourtant promis d'accompagner les responsables des églises dans la reconstruction ou la réhabilitation des lieux endommagés. À ce jour encore, l'on n'a rien vu au niveau du comité de crise mis en place par l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Pasteur Sabo Bakiri est un des membres.
Nous avions envoyé les éléments d'appréciation concernant le dédommagement. J'avais entendu... Cela ne nous a pas été notifié officiellement que l'inventaire a été fait concernant les dégâts sur les immeubles, c'est-à-dire physiquement sur les bâtiments. Mais nous attendons la proposition de l'État.
Malgré tout, l'on se prépare activement au niveau des églises pour fêter les Pâques. À 2 jours déjà, une certaine ambiance est perceptible dans certaines.
L'église va célébrer la Pâque parce que, je peux le dire, nous étions au plus longtemps préparés. Que l'église, ce n'est pas le local. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est le frère, c'est la sœur. Donc le local, c'est là où nous nous rassemblons pour faire le culte. Donc même si ce local a été détruit, nous, nos frères, tant que nous sommes vivants, nous célébrons. Je souhaite une bonne fête des Pâques à tous et à toutes.
Du Niger, nous n'avons aucune tristesse pour ce qui s'est passé parce que c'est la vérité de l'évangile qui a été touchée, mais nous allons continuer à aller de l'avant et le Seigneur sera glorifié. Nous voulons simplement souhaiter bonne fête de Pâques à tout le peuple du Niger et leur dire que la résurrection de Christ n'est pas seulement pour une seule personne, mais pour tout le peuple du Niger.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Island Music, de la bonne musique des îles. Zouk, soca, merengue, reggaeton, reggae. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. Encore une fois, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que dia
Siva, le monde aujourd'hui, la mise en onde était assurée par Anne Arbetson, au micro Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com et restez branchés sur Roger Muntou. Très bonne journée à tous.
Soyez au cœur de l'info.